Sans plus tarder, je vous présente les personnes qui vont vous parler de leur revue. En tout premier lieu, Gary Caldwell. Monsieur Caldwell a un parcours extrêmement riche. Il est connu comme penseur sur la scène publique. Diplômé de l'Université de Toronto à York et de l'Université Laval, il est venu dans les cantons de l'Est pour un retour à la Terre. Durant les années 70 et 80, il a été professeur à l'Université Bishops et chercheur principal à l'Institut québécois de recherche sur la culture. Il a quitté son poste à Bishop en 79 et à l'IQRC en 92. Depuis les 35 dernières années, Gary Caldwell a été très impliqué dans la société civile locale en tant que président de caisse populaire, commission scolaire et depuis 90 comme conseiller municipal. Il est actuellement pro-maire de Saint-Édouard. Il a aussi participé à la commission sur l'avenir du Québec et à la commission des États généraux sur l'éducation en 95. Gary Caldwell a écrit pour des périodiques à caractère social et politique comme L'Agora, Inroads et Égard, revue dont il sera question ce matin. Son livre le plus récent s'intitule « La culture publique commune, les règles du jeu de la vie publique au Québec et les fondements de ces règles ». Et il prépare actuellement une œuvre similaire en anglais qui portera sur la culture publique canadienne. Ses plus récents articles ont traité du rôle de l'État dans l'enseignement public au Québec et du fédéralisme canadien. Monsieur Caldwell, je vous laisse la parole.
Oui, bonjour. Bon, ça m'a fait beaucoup plaisir d'être ici à nous. OK, bon. Mal parti. Beaucoup de plaisir d'être ici. Je veux remercier de l'invitation. Cela prouve qu'il y a un espace public au Québec, une revue aussi réactionnaire que le nôtre, soit invité à participer avec les illuminés de la littérature, de l'histoire. Alors, je vais essayer de vous dire un peu où nous, on se situe dans ça, où moi, je me situe dans ça. Parce qu'on est carrément, nous, en marge de la mouvance dominante. Il n'y a jamais un professeur universitaire, à ma connaissance, qui a voulu publier chez nous, et il n'y en a pas sur le conseil de rédaction, qui, je pense, est un bon signe pour nous en ce qui concerne notre rôle et notre indépendance intellectuelle. Je veux vous dire un peu où je me situe dans ça, et je veux vous parler de le pourquoi de la revue, et c'est pour ça qu'on nous a demandé de venir ici. Bon, moi, je suis adhérent au projet politique canadien de la Constitution de 1867, et où le but, c'était que des sociétés distinctes, le Canada français, le Canada de culture britannique, se tient en marge de la grande république, c'est-à-dire des États-Unis. C'était un contraint géopolitique qui existe à nos jours, et pour moi, ça reste le facteur déterminant dans l'évolution de nos sociétés. Et comme George Grant, et je mentionne un peu cette tradition Red Tory, George Grant, qui était le porte-parole le plus articulé de cette tradition au Canada anglais, dans la Main pour une Nation, il prétendait que si Québec trouvait trop lourd porter le poids d'un Canada anglais qui se désintègre et qui s'assimile à la culture américaine, le Québec devrait abandonner le Canada anglais et faire route toute seule pour continuer dans ce projet de maintien d'une société distincte. Bon, aussi, je suis Burkean, si vous voulez. Je crois à la sagesse accumulée. Je crois à la société civile. Je ne crois pas que l'État peut faire œuvre d'éthique. Je ne crois pas que le marché peut s'occuper du bien commun. Il faudrait une culture assis dans la société civile qui s'occupe de ces choses-là. Bon, les enjeux pour le Québec aujourd'hui, comme je les vois, après ça, je vais vous essayer d'indiquer comment la revue s'insère dans la réflexion autour de ces enjeux. Bon, le premier enjeu, c'est que Québec s'est coupé de son histoire, de sa culture, avec la Révolution tranquille, et c'était une erreur, la Révolution tranquille. Il faut refaire, il faut faire en fait qu'on qu'on puisse parier, qu'on puisse s'occuper des effets de cette erreur, des conséquences de cette erreur. On a maintenant une culture à très court terme, bien qu'on vit aussi bien que des gens d'Ontario matériellement, on est en train d'éroder notre capital économique et social à long terme. Et il faut s'occuper de ça. Finalement, on a une pensée unique au Québec encore. On n'a pas encore une société vraiment pluraliste où il y a une fonction critique qui fait en sorte qu'on s'ajuste. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est du papier commercial. Bon, au Québec, il n'y a pas une seule institution qui n'a pas acheté du papier commercial. La Caisse a acheté, la Banque nationale, les Desjardins. J'étais dans la Mauricie, il y a une caisse populaire là de 17 petites caisses. Ils sont en train de faire un prélèvement d'un million de dollars par année pour que la Caisse centrale puisse à faire des réserves contre le papier culturel, papier commercial. Alors, par contre, ailleurs, par exemple, au Canada anglais, il y a une banque, le TD, qui n'a pas acheté du papier commercial. Il y a une grande firme d'investissement, Haggerty et Knoll, qui n'ont pas acheté du papier commercial. Ici, on a encore, on souffre d'une pensée unique. Ça fait en sorte qu'on peut se mobiliser très vite, mais cette pensée unique présente des problèmes importants. Par exemple, toutes les questions de la cour éthique et culture religieuse. L'État a réussi avec des mensonges, c'est-à-dire ils ont dit que la population était considérée, de mobiliser l'appareil en arrière de ça et de l'imposer avec un caractère obligatoire, qui est quand même assez exceptionnel, le fait que ce soit obligatoire. Alors, cette pensée unique présente un problème pour le Québec et on risque de se liquider nous-mêmes avec cette pensée politique. Et quand, par exemple, le papier commercial, la note pour ça, être pleinement en évidence, on va voir ça. Bon, la revue, pourquoi? Bon, la revue, il s'agit évidemment, comme on dit, sur notre en tête, d'une résistance conservatrice. Dans ce revue-là, on essaie de prévaloir que nous sommes héritiers, par exemple, de la tradition gréco-judéo-chrétienne, que cette tradition, c'est le meilleur pour nous et qu'il faut pas l'abandonner, il faut le connaître, il faut continuer s'inspirer. Il faut que la société civile soit partagée et pas tout à fait évacuée par l'État. Et il faut aussi que nous sommes capables d'une pensée critique. Moi, je fais partie de cette revue. Je suis pas un catholique, mais cette revue me permet d'exprimer mes pensées, mes analyses plutôt empiriques. Je suis pas un idéologue, mais peut-être après m'avoir entendu depuis 10 minutes, vous êtes pas convaincu de ça. Faire cette analyse empirique de ce qui se passe. Par exemple, on en a fait sur l'étatisation de l'éducation au Québec. Les professeurs d'école sont convaincus. Il me reste combien de minutes?
Ça va?
10 minutes. OK. Qui sont convaincus qu'ils sont les agents de l'État, qui est quand même aberrant dans notre tradition occidentale. Les professeurs, les écoles sont le porte-parole et sont l'instrument de la société civile. Ils sont ceux qui transmettent les connaissances, la sagesse, l'éthique. Nous, on a rendu ici où il s'agit que le ministère de l'Éducation dit « Vous feriez pas telle chose, par exemple, une exemption au cours éthique et culture religieuse. » Toutes les commissions scolaires suivent, même si ce n'est pas le rôle dans la loi de le ministère de décider ça, sauf en secondaire 5, c'est le rôle des commissions scolaires. Mais les commissions scolaires disent qu'ils n'ont pas de choix, c'est le ministre qui a décidé ça. Alors, quand on fait des analyses empirique sur ça. On va en faire un autre sur la question de notre prospérité. Fortin, l'économiste, nous a fait comprendre qu'on vive aussi bien qu'en Ontario. C'est vrai, pour toutes sortes de raisons. On travaille plus. Apparemment, c'est une vertu d'être plus impliqué dans l'économie de marché. C'est-à-dire, le taux de participation est plus haut. On travaille moins longtemps parce qu'on peut s'amuser plus. Mais le problème, c'est que le capital, à long terme, on est en train de le manger et on ne serait pas pas capable de faire ça dans 15 ans d'ici. Et cette dynamique est en place depuis 1967. Depuis la Révolution tranquille. Il y a une génération ludique qui est faite en sorte qu'on vit bien, mais on compromet le long terme. Il y a évidemment des contributions très idéologiques dans la revue autour de la question, par exemple, le maintien de la définition de mariage. Dans mon optique conservatrice, je crois à ça. C'est un erreur de changer la définition de mariage. Mais c'est une revue engagée dans le sens que nous tenons à s'attaquer à des enjeux actuels. Et je vous en donner un exemple de toi, la question de définition de mariage qui était changée sans que la population se prononce là-dessus, la question de l'enlèvement de l'article 93 de la Constitution de 1867 qui protégeait la distance dans les écoles. Quand je suis venu au Québec en 70, on avait le choix entre les cours d'éducation religieuse, catholique, protestant ou morale. Maintenant, il n'y a aucun choix. Et il y a la question de la société civile qui est en train d'être déplacée. On traite de ça, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passait par des analyses empiriques. Il y a aussi un côté rhétorique et idéologique dans la revue. Là, comme j'avais dit, le programme ECR. Et maintenant, la grande question, c'est notre capacité de maintenir notre capital social et économique à long terme avec le niveau de consommation qu'on a à court terme. Alors, finalement, je conclue avec ça. C'est une revue libre à mes yeux, dans le sens on est en dehors des mouvances dominantes. Nous n'avons pas de fonds ni du marché venant du marché, ni de l'appareil, c'est-à-dire les universités, bien que j'apprécie cette rencontre ici aujourd'hui. Et nous sommes indépendants comme auteurs. Je suis assez marxiste pour savoir que nos situations matérielles déterminent en grande partie ce qu'on est capable de dire, notre réflexion, notre analyse. Et finalement, ça existe 5 ans, ça fait maintenant 5 ans qu'on existe. Comme vous savez tous, c'est difficile de maintenir une revue comme ça, mais on poursuit en essayant d'avoir un équilibre entre un message idéologique, rhétorique, et aussi des analyses empiriques, des enjeux actuel, et on s'attaque à ce qu'on trouve devrait être attaqué. Par exemple, le message dernièrement, je prends ça comme exemple, de Pierre Fortin, dans le sens que tout va bien parce qu'on consomme, qu'on a un standard de vie comparable à des gens d'Ontario. Alors, je vous laisse avec ça, et j'espère que dans les échanges, on va pouvoir nourrir la discussion.
Merci, M. Caldwell. Effectivement, il y aura sûrement des questions, on pourra échanger, mais nous allons procéder de la manière suivante, c'est-à-dire que les trois personnes à mes côtés vont prendre la parole à tour de rôle et il y aura ensuite une discussion générale. Alors, je vais maintenant vous présenter Martin Jalbert, et, qui est ici pour représenter la revue À bas bord. Martin Jalbert, donc, est membre du collectif de la revue Sociale et politique À bas bord depuis 2005 et secrétaire de rédaction depuis 2006. Il a récemment coordonné un numéro sur mai 68 paru dans la revue À bas bord intitulé « Nous sommes héritiers de 1968 » et pour le magazine Spirale, un numéro sur le philosophe Jacques Rancière intitulé « Jacques Rancière, le dissensus à l'œuvre ». Il prépare par ailleurs une thèse de doctorat sur les rapports entre esthétique et politique dans la littérature québécoise.
Bien. Merci Dominique Garand. Merci aussi à Patrick Poirier et à Jean-François Bourgeot pour leur invitation insistante. Je vous prie d'excuser l'état de ce que je vous présente ici. J'ai appris hier soir seulement que l'état de santé de mon collègue Claude Rioux, par ailleurs sur le point de partir au Mexique pour le compte de Lux Éditeur, rendait impossible sa présence annoncée à la séance de ce matin, et Claude, travaillant vite et bien, et en l'occurrence à la dernière minute, n'avait rien préparé. Donc voilà, cette déconvenue de dernière minute n'est pas dépourvue de sens. Si c'est d'abord et avant tout devant les lois de l'estime et de l'amitié pour les organisateurs de ce colloque et pour la plupart des participants qu'il s'agit pour moi de comparaître, si ces lois ont contribué à ce qu'Ababor ne vous fasse pas complètement faux bon, il semble bien que l'empêchement de Claude a bien failli satisfaire une fois pour toutes le désir inavoué même pour nous à ne pas être des vôtres. À l'origine sans doute de la série d'actes manqués qui se sont accumulés dans les communications entourant la préparation de ce colloque. La revue sociale et politique Ababor se sent un peu mal à l'aise d'être convoquée à intervenir sur des enjeux touchant, peut-être pas exclusivement, mais en grande partie, des revues culturelles. Ainsi, le diagnostic à l'origine du colloque sur le foisonnement des revues culturelles québécoises ne s'applique pas à la situation des revues militantes d'information et d'idées politiques comme Ababor. La situation de celle-ci consiste au contraire en un procès de raréfaction de la parole, prise de parole résolument de gauche. La gauche ne compte aucun organe de masse, quotidien ou hebdomadaire, comme ça se voit dans plusieurs pays européens. Et j'exclus peut-être ici l'hebdomadaire électronique Presse-toi à gauche, qui reste encore une expérience assez marginale. Les revues et les journaux d'idées d'information politique et sociale de gauche, pour Ababor à tout le moins, j'en sais rien pour le Couac, pour la conspiration dépressionniste, ou conjoncture, dont le travail vaut d'être salué ici. Ces revues et ces journaux, dis-je, vivent mal. Leur bulletin de santé est inquiétant. Leur portefeuille, ils n'ont pas de portefeuille. Et enfin, plusieurs menaces de disparaître, comme c'est le cas du Mouton Noir ou du Couac, qui en sont peut-être à leur dernier mille. Comme revues d'idées, non pas revues culturelles, pour qui il existe des programmes de subvention, ces revues, ces journaux sont généralement sans subvention, je pense bien sûr à Possible ou encore à Recto Verso qui a dû cesser ses activités il y a quelques années quand Patrimoine Canada a coupé sa subvention qui était le dixième de ce que reçoit de Patrimoine Canada la revue grand public McLean. Et je ne parle pas ici de la revue Relations qui n'a pas été invitée au colloque malheureusement mais qui me semble se positionner quand même dans un champ de l'action sociale de gauche et qui a manifestement un autre mode de fonctionnement, un autre mode de financement dont pourra peut-être nous parler Jean-Claude Ravet qui est ici présent. En ce qui concerne Ababor, on ne sait pas comment elle survit depuis 5 ans, après 27 numéros. Elle vit surtout des efforts soutenus de militants, tous bénévoles, ça va de soi, et sur le plan financier, des abonnements et des ventes. Ababor vit aussi d'être le lieu de rencontre de gens qui, sans elle, seraient dispersés, sinon isolés dans leur milieu de travail, leur milieu de vie. Des gens qui sont loin d'être d'accord sur tout, mais qui s'entendent suffisamment et qui partagent un nombre suffisant d'idées pour avoir à cœur de faire durer l'aventure chaque année, à chaque 2 mois, 5 fois par année. Elle vit aussi de tenter, tant bien que mal, d'agir selon les idées qu'elle défend, soit le travail démocratique et collectif de conception et de production des numéros. La présentation du colloque insiste beaucoup sur la notion de scène. Chaque revue a-t-elle sa scène provisoire, sans lien avec les autres revues? Existe-t-il une scène commune de la revue culturelle susceptible de contribuer à l'élaboration, je cite, d'un espace public ouvert au dialogue, à l'échange? Fin de la citation. La scène qui intéresse Ababor est une scène spécifique, qui n'est pas culturelle, mais politique, qui n'est pas celle des revues politiques non plus, qui est celle des idées, des discours, des décisions concernant l'organisation du monde commun. Cette scène n'est pas spécifique à Ababor, ce n'est pas sa scène, c'est une vieille scène qui tend aussi à disparaître et qu'il nous faut sans cesse recréer, réinventer, c'est la scène des antagonismes politiques. Elle ne peut pas se penser cette scène sur le modèle libéral ou rationaliste de l'espace public ouvert au dialogue ou à l'échange, c'est une scène de conflit productif, indépassable, auquel il n'y a pas de solution rationnelle, où il importe d'abord et avant tout de reconnaître et d'identifier nos adversaires. Bonjour. C'est peut-être donner plus d'importance, mais bon. Et reconnaître surtout nos alliés pour mener une lutte dont l'objet est l'organisation du monde et pour s'inscrire aussi dans des rapports de force existants ou à créer. Cette scène, c'est cette scène qu'il importe à Ababor de contribuer à réactualiser. Ababor est né en 2003, dans un moment à la fois déprimant, qui est encore le nôtre, soit l'arrivée de Charest au pouvoir, la montée de la droite ici et ailleurs, sauf en Amérique latine, disons, et en même temps un moment enthousiasmant. Dans la mesure où on voyait apparaître et se développer, en plus d'une nouvelle formation politique provinciale, l'UFP, qui deviendra Québec solidaire après la fusion avec Option citoyenne, on voyait se développer, dis-je, depuis Seattle, depuis le sommet des Amériques d'avril 2001, quelque chose comme un mouvement social et politique de résistance contre les politiques néolibérales des dirigeants provinciaux et fédéraux et contre la guerre contre le terrorisme menée par l'administration des États-Unis et de ses puissances avec ses puissances amies. Ces années donneraient en 2005 la plus grande grève étudiante de l'histoire du Québec et de fortes mobilisations contre l'invasion en Irak et en Afghanistan, qui n'ont rien à envier aux manifestations contre la guerre du Vietnam des années 60. Le but et le rêve d'une revue comme la nôtre est évidemment de contribuer à l'avancement des idées et des critiques qui informent ce type de mouvement, d'où de telles idées peuvent par ailleurs émerger. La revue À Bâbord a été fondée pour intervenir dans le débat public et politique. Elle a toujours été pensée comme un véhicule d'intervention visant à faire avancer des idées minoritaires contre les discours dominants surreprésentés au sein de médias qui répondent à nos efforts de critique et de pensée par un silence implacable, rendant dès lors plus pertinente et plus nécessaire l'existence de notre revue. En outre, À Bâbord souhaite apporter quelque chose aux rapports de force existants qui, dans l'espace public et médiatique, ne sont en rien favorables aux mouvements sociaux et politiques qui luttent pour plus de justice sociale, pour plus de liberté, pour plus d'égalité. En ce sens, À Bâbord n'a jamais eu la prétention, sinon l'hypocrisie, d'être un miroir des débats de la société. Dès lors qu'on comprend ainsi que la scène d'intervention d'À Bâbord est l'agonisme qui est la nature même de la politique et de la démocratie, la question de savoir si on échange ou pas, si on débat ou pas suffisamment ou non avec ceux avec qui on n'est pas d'accord, appelle évidemment d'autres développements. Ce qui nous importe davantage, qui apparaît paradoxal à peine quand on défend l'idée d'une politique dissensuelle, c'est bien sûr de rencontrer ceux avec qui nous sommes d'accord et ceux qui pourraient éventuellement contribuer à l'avancée parfois difficile des actions de ceux qui tentent de faire quelque chose sur la base de l'espoir d'un monde plus juste, plus égalitaire. Je vous remercie.
Alors, merci Martin Jalbert. Merci à vous deux, d'ailleurs, qui avez déjà parlé pour le respect du minutage, même de façon excessive. Vous nous donnez un petit peu de marge de manœuvre pour la discussion qui va suivre. Alors, je présente maintenant notre troisième intervenant, Gilles Dupuis, qui sera ici à titre de représentant du magazine Spirale. Alors, Gilles Dupuis est professeur agrégé au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, comparatiste de formation. Il s'est spécialisé dans le champ de la littérature québécoise contemporaine et s'intéresse en particulier aux œuvres d'Hubert Aquin et de Jacques Poulain. Récemment, il s'est intéressé aux écritures migrantes et transmigrantes, à la parodie et au pastiche. Il a publié de nombreux articles dans des ouvrages collectifs et dans diverses revues, tant au Québec qu'à l'étranger. Et puis membre du comité de rédaction de Spirale. Alors, Gilles, à toi la parole. Oui, c'est vrai. Ouais.
Bon, je me sens un petit peu mal à l'aise là, entre bâbord et tribord. D'ailleurs, je pense qu'on est un peu mal situé. Il aurait fallu que vous soyez à ma gauche et que vous soyez à ma droite. Mais bon, évidemment, quand je choisis un titre comme le troisième lieu pour parler, de Spirale, bien sûr, je vais parler de Spirale, mais parler surtout à partir de Spirale, savoir qu'est-ce que peut être la position de Spirale dans la police au sens de la cité, bien sûr, le politique et non pas la politique. Je me sens un petit peu mal à l'aise parce que, d'une part, je suis un des membres du comité de rédaction, mais évidemment, je ne peux pas prétendre parler au nom de Spirale. Heureusement, le directeur est là. Il y a deux membres du comité de rédaction qui pourront ajouter leur grain de sel au moment de la discussion. Je me sens aussi un peu mal à l'aise parce que mon titre pouvait donner peut-être lieu à malentendu, comme si j'étais pour prendre position entre justement la gauche et la droite. Et bien sûr, ce troisième lieu n'est pas une position politique. Quiconque connaît la revue Spirale sait très bien que ce serait impossible, en fait, de prendre une position politique dans l'éditorial, ce qui n'empêche pas, évidemment, les membres d'avoir des sympathies, des allégeances. Et comme j'en parlerai un petit peu tantôt, ça peut transparaître même dans un compte-rendu critique qui ne semble pas, à première vue, le médium approprié pour faire valoir sa posture politique. Alors, donc, le troisième lieu, oui, je l'ai choisi en écho à l'éditorial du numéro 210 de Spirale. septembre-octobre 2006. Si vous voulez vous mettre à jour un peu, voir où en est Spirale dans ce qu'on pourrait définir l'esprit Spirale, c'est en lisant l'éditorial que vous allez le retrouver. Mais en fait, s'il y a eu des changements qui sont intervenus, autant au niveau du comité de rédaction, du réseau de collaborateurs, bien sûr, même la maquette qui a changé à ce moment-là, le mandat de Spirale n'a pas changé. Non, c'est, y a pas, comme on l'a bien dit dans cet éditorial, il n'y a pas eu de révolution. À la limite, on pourrait dire qu'il n'y a pas de révolution possible à Spirale, à la mesure où c'est toujours en évolution, en circonvolution autour de la même pratique. Alors, pour peut-être évacuer tout de suite ça, rappeler bien, très brièvement le mandat, le profil de Spirale, comme vous le savez, pour ceux qui ne le sauraient pas, si jamais c'est le cas, c'est un magazine culturel qui se donne comme fonction, depuis sa fondation en 1979, de recenser l'actualité culturelle, autant la littérature, les arts, le théâtre, la musique plus récemment, la bande dessinée, mais aussi le discours que l'on tient sur cette culture, discours philosophique, discours psychanalytique, discours sociologique, politique, etc., en fait, tout ce qu'on appelle sciences humaines à tort ou à raison, et donc de porter un regard critique contemporain de cette production. Ce qui veut dire, évidemment, que le médium par excellence, le genre pratiqué par Spirale, et c'est déjà quelque chose d'un peu de paradoxal, c'est le genre qui, par définition, est le plus scolaire, le plus académique. Évidemment, c'est là que ça va se jouer pour nous de se singulariser, à savoir le compte-rendu critique. On sait, quand on lit les revues savantes, quand on lit les revues universitaires, la façon dont très souvent le compte-rendu critique est présenté, ça suit toujours un peu un modèle que l'on enseigne à nos étudiants pour leur dire ensuite qu'ils doivent se déprendre de ce modèle-là. C'est un modèle qu'on doit d'abord assimiler pour s'en défaire. Alors, Spirale est justement un forum où on apprend à se déformer après avoir été formé à une certaine école. Alors, ce qu'on essaie de pratiquer, en fait, c'est un compte-rendu critique qui soit plus essayistique dans sa facture, dans sa forme, et qui se réclame peut-être, sans le dire ouvertement, de toute cette tradition d'essayistes critiques hors pair, les Benjamin, Barthes, et on pourrait en faire une liste très longue, qui sont toujours un peu en marge de l'institution, tout en ayant un pied dans l'institution aussi, qui est un peu la position de Spirale, j'y viendrai tantôt. C'est une question de style, dans le meilleur des cas possible, parce que je ne dirais pas que tous les compte-rendu critique dans Spirale sont véritablement signés, mais dans le meilleur des cas, c'est une question de style, de voix, de signature, de tonalité particulière qu'on peut faire entendre même dans un compte-rendu critique. C'est une question de rhétorique, parce que la rigueur qu'on cherche dans nos comptes rendus critiques, dans nos recensions de l'actualité culturelle, c'est une rigueur rhétorique et non pas une rigueur scientifique, contrairement à ce que, justement, le compte rendu critique enseigné au collège, enseigné à l'université, essaie d'implanter, critères d'objectivité, de notes en bas de page, de sources bien citées adéquatement, etc. Tout un appareil qui se veut scientifique. À Spirale, au contraire, on va privilégier une rigueur rhétorique qui se tient par l'argumentation elle-même et aussi même de propos. Il y a des comptes rendus qui sont plus classiques, bien sûr, où on rencontre de façon presque factuelle de l'ouvrage qui est recensé, mais il y a des comptes rendus où, à la limite, le texte ou l'objet culturel sert de prétexte pour que le recenseur, j'aime mieux le recenseur que celui qui fait le compte-rendu critique, le recenseur va se permettre d'utiliser cet objet-là pour poursuivre la réflexion amorcée dans le texte, prendre position éventuellement contre ce qui pourrait être l'idéologie qui émane du texte ou de l'objet, et entrer même en concurrence, je pourrais dire, avec le texte dont il s'agit de rendre compte, dans un rapport qui peut être d'émulation, qui est un rapport à la limite même où le texte devient trivial, à la limite par rapport à ce qu'on peut en dire au-delà du texte. Pour en venir plus précisément au troisième lieu, comment des lieux, c'est toujours ce lieu-là dont on dit qu'il fait défaut au Québec. Il n'y a pas toujours fait défaut, mais disons que peut-être Maintenant, il fait défaut plus que jamais. Ce serait ce lieu idéalement, hein, virtuel à la limite, entre le Forum Savant, et Forum Savant, j'entends l'université avec sa soi-disant tour d'ivoire, le savoir spécialisé, compartimenté, discipliné, et même si on poursuit ça dans les médias, le canal Savoir, à la télé, quand on y pense, c'est pas toujours le plus passionnant à écouter ou à regarder, où les conférences universitaires sont transmises, ou des cours même sont disponibles. Donc, ce lieu-là, le Forum Savant, que j'appelle de façon très, très, très générale, et la place publique, mais au sens le plus large du terme, et je dirais médiatique, c'est devenu même un cirque médiatique, la radio, la télé, les journaux. Il fut un temps où il y avait des émissions culturelles à la radio de Radio-Canada, il fut un temps où le dimanche soir, on écoutait Les Beaux Dimanches plutôt que Tout le monde en parle, il fut un temps où dans les journaux, il y avait une critique au-delà qu'une appréciation purement subjective ou une analyse très sommaire, mais c'est de plus en plus rare. Hein. Je pense que tout le monde, surtout nous, des revues, tout le monde des revues ici, on peut convenir de ça. Alors, ce lieu qui soit entre les deux, entre le Forum Savant et le cirque médiatique, entre deux grandes institutions, pour le dire, l'institution universitaire, mais là, j'entends dans l'institution universitaire tous les lieux de savoir, les collèges, etc., les académies, et le lieu de la promotion, de la diffusion de la culture, les éditeurs, les diffuseurs, les galeristes, les salons du livre, etc., et encore un lieu entre, je dirais, pour le dire plus brièvement, les théoriciens d'une part et les praticiens de l'autre. Et à chaque fois, on a l'impression que ces lieux-là ne peuvent pas se rencontrer, et c'est peut-être d'ailleurs très bien qu'ils ne se rencontrent pas. C'est peut-être l'objet justement de ce troisième lieu virtuel, ponctuel, hein, qui existe seulement de façon fugace dans le temps et l'espace, de faire rencontrer ces lieux-là qui, à la limite, ont des conceptions tout à fait opposées de la culture, etc. Alors, ce lieu-là, pour le dire très, très banalement, c'est le lieu critique par excellence. C'est le lieu de la critique. C'est ce lieu qui est essentiellement celui de la prise de parole critique. C'est un lieu politique aussi, dans la mesure où, si on avait à le définir spatialement, ce serait l'agora. Je ferai une distinction entre l'agora, au sens grec du terme, et le forum, maintenant, sa réappropriation romaine qui a débouché sur autre chose. L'agora est tout simplement le lieu, évidemment, public où on vient discuter, argumenter, disputer, voire polémiquer. En ce lieu-là, je dirais que, enfin, de mémoire, a toujours existé en Europe. Il existe encore toujours aujourd'hui. Dominique, qui, comme moi, a été lecteur d'échange à Bologne, on peut en témoigner. Il s'agit d'aller sur une place publique en Italie, de n'importe quelle grande ville, la place centrale, la place majeure, le dimanche, la journée oisive par excellence, et vous allez voir une bonne partie de la population converger. Et très rapidement, entre discuter de tout et de rien, il va y avoir des discussions passionnées politiques qui vont germer automatiquement, des fois des disputes assez corsé, quelque chose qu'on ne voit pas, ne serait-ce que par la disposition de l'espace dans les grandes cités nord-américaines. Hein, combien de personnes convergent à l'esplanade de la place des Arts pour aller discuter de politique le dimanche, c'est plutôt rare. Alors, il faut faire exister ce lieu-là virtuellement. Et je pense que c'est la fonction des revues. Et en tout cas, c'est certainement ce que Spéral a voulu occuper, c'est ce lieu virtuel qui a existé quand même au Québec, il faut le rappeler, a existé même de façon très, très vivante dans les années 60-70. Donc là, je prendrai évidemment le contre-pied de ce que vous avez dit sur la Révolution tranquille, parce que grâce à des revues comme Cité libre, Liberté et Parti pris parmi tant d'autres, il y a eu une prise de parole dans l'espace public. Il y a eu, avec les soirées de la poésie, quand ce n'était pas seulement des récitals de poésie, comme c'est devenu maintenant, mais que c'était vraiment des événements culturels avec des retombées politiques, il y a eu des moments où ce lieu-là a existé au Québec. Il y a encore des vestiges de ce lieu-là, même très concrets. Si vous allez à Carré-Saint-Louis et vous regardez, je pense, la maison de Pauline Julien, mais je ne suis pas absolument sûr, une des maisons sur le côté, il y a un long poème écrit par un poète en bâtiment qui était lié à Parti pris à l'époque, un certain Bugeaud ou Bujol, mais je me souviens plus son prénom, où il y a un poème écrit volontairement en joie à l'exécrable, plein de fautes, mais voulu évidemment, où les politiciens sont pris à partie, dont le maire Drapeau, et c'est signé à la fin Bugeaud, peintre en bâtiment, et ça m'étonne, poète en bâtiment, et ça m'étonne d'ailleurs que cette murale qui est toujours là ne soit pas plus souvent reproduite dans des guides touristiques même de Montréal pour montrer que c'est quelque chose là d'une prise de parole populaire à l'époque où justement on s'engageait facilement sur la place publique. Imaginez, à part ATSA, hein, l'action terroriste socialement acceptable là, qui multiplie les manifestations comme ça ponctuelles, combien c'est rare maintenant de voir ce genre de choses-là au Québec. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? C'est d'occuper ce lieu-là. Spirale est une revue parmi tant d'autres qui prétend occuper ce lieu critique, virtuel, comme j'ai dit, mais où on peut échapper à la fois au discours universitaire qui est un peu fermé en lui-même, hein, même malgré la tentative de l'université de sortir de ses murs, très difficile de se faire entendre en dehors de ses murs, et aussi d'éviter le cirque médiatique. Non, tout simplement le blabla, le ronron, où finalement tout le monde a son opinion, on respecte l'opinion de chacun et on dit la même chose, ou tout simplement on n'argumente pas parce qu'on a le droit à chacun notre opinion. Alors, on essaie de faire consister ce lieu-là, évidemment une revue qui se donne comme mandat de faire la recension critique de l'ensemble, enfin l'ensemble, c'est impossible d'être exhaustif, donc déjà dans nos choix, il y a une inscription, je dirais, politique à ce niveau-là. Moi, je ne la décoderai pas maintenant, mais si vous lisez attentivement, je pense que vous pouvez tirer certaines conclusions. Donc, de prendre cette parole-là et de faire consister ce lieu-là, ce lieu virtuel. Donc, je pense qu'il me reste encore 5 minutes.
3.
OK, on va aller un peu plus vite. Alors, c'est celui que, donc, que j'ai dit que tente d'occuper Spirale. D'une part, par sa pratique singulière, je dirais, du compte-rendu critique particulière, où la subjectivité est inscrite dans le texte, où on n'a pas peur de susciter la polémique. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle va lever. Moi, j'ai écrit des textes des fois très, très durs. Parfois, j'ai eu des réponses. D'autres fois, sans que ça l'ait poursuivi dans une polémique. D'autres fois, ça a été lettre morte. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va y avoir polémique, mais ça ne veut pas dire aussi qu'on doit se priver d'exercer cette parole-là. Ou encore, pour Spirale, en multipliant les événements, lancement, table ronde, débat, donc, même la remise du prix Spirale, dont je ne parlerai pas maintenant, mais on pourra peut-être en parler pendant la discussion, dans des endroits périphériques et à chaque fois itinérants, je dirais, de la culture. Quand je dis périphériques, je ne veux pas dire marginaux, hein, ce n'est pas du tout pour ne pas déprécier, mais justement, entre l'université et, comme je dis, le cirque médiatique, il y a les librairies, il y a les bibliothèques, comme ici aujourd'hui, il y a les centres de la culture, il y a la maison des écrivains, il y a les galeries d'art, etc. Et on essaie le plus possible d'être présent de façon itinérante dans ces lieux-là pour justement faire consister encore ce troisième lieu. Mais aussi, on ne se prive pas d'être présent dans les lieux institutionnels, parce que je dois quand même dire un mot rapide sur les rapports un peu quand même privilégiés qu'a Spirale avec l'université, donc à l'université. Et dans les médias, comme on ne trouve plus notre compte, personne n'y trouve son compte, bien, on a fondé la radio Spirale. Et ça aussi, je n'en parlerai pas, parce qu'il y a des personnes plus compétentes que moi pour aborder ce sujet. Donc, à l'université, je veux seulement dire deux choses. Bizarrement, on pourrait dire que ce magazine culturel est aussi une revue para-universitaire. Il faut entendre ça au double sens, de paramilitaire et peut-être de paratonnerre, si vous voulez. Paramilitaire, pourquoi? Parce qu'à bien des égards, tout simplement à cause de la composition des membres, hein, on est souvent issus de l'université, ce sont des professeurs, des collègues de collège ou encore des étudiants à l'université ou qui ont été à l'université. Donc, forcément, le discours universitaire a des retombées. Des prolongements dans la revue, ça, c'est clair. Et dans ce sens-là, on prend le relais un peu de l'université. Même la formule du compte-rendu critique, une certaine position élitiste qui nous est parfois reprochée, d'avoir un discours très exigeant, nous associe un peu à l'université et tant mieux, pas de problème pour nous. Mais aussi, on se garde de l'université. Hein. L'université là, devient le tonnerre ou la pluie, et là, on a besoin d'un parapluie ou d'un paratonnerre. Et là, c'est contre l'université comme machine institutionnelle, hiérarchisée, disciplinée, même compartimentée, qu'elle le veuille ou non. Et là, on fait jouer à fond notre subjectivité, qui n'est pas le subjectivisme relatif, c'est pas le personnalisme. Hein. C'est vraiment une subjectivité à l'œuvre, une singularité dans le texte, question de style. Et aussi, un certain éclectisme dans les objets. De plus en plus présent, je pense, dans la revue, avec la bande dessinée, la chanson, des objets qui n'étaient pas nécessairement recensés de façon constante par le passé et qui, de plus en plus, entrent dans la composition. Mais si il y a beaucoup d'objets culturels de la culture populaire, jamais notre discours, j'ose le croire, n'est populiste. Parce qu'en spirale, je pense, comme dans bien d'autres revues, on pense que élitisme et éclectisme peuvent faire bon ménage. Hein, ça ne doit pas nécessairement s'exclure. En conclusion, donc, pas de position politique comme telle, ça serait même contre-indiqué pour une revue qui veut se garder libre de toute allégeance clairement affichée, mais en revanche, une posture critique qui est en soi une façon de se positionner sur l'échiquier politique et d'engager la polémique, quelle qu'en soit la forme, et qu'elle ait ou non des suites. Non, et je pense que ça, c'est un très présent à Spirale. Et j'aimerais terminer en formulant un vœu qui est un peu pour poursuivre la discussion qu'on avait amorcée à la toute fin de la journée hier, à savoir que si ce troisième lieu n'existe plus comme tel au Québec de façon concrète, et comme j'ai dit, peut exister de façon virtuelle. Et c'est pas une revue, c'est même pas trois, quatre revues seules qui peuvent l'occuper, encore moins l'incarner. Ou sinon, qu'est-ce qui arrive, c'est que chacune des revues défend son fief, défend sa niche à l'intérieur de ce lieu virtuel et finalement ne se confronte pas les unes aux autres. Et pour poursuivre avec le vœu qu'avait exprimé Étienne Beaulieu hier, oui, je pense que les revues peuvent être aussi un lieu d'interaction, d'échange amical, mais aussi polémique entre elles. Même si la SODEP n'aime pas ça, on n'est pas obligé d'utiliser la SODEP comme notre surmoi. Ça ne veut pas dire de polémiquer dans le but vraiment de polémiquer à chaque fois. Mais si ça donne le lieu à des polémiques, et pourquoi pas? Et peut-être qu'à ce moment-là, si les revues rejouaient leur rôle en interaction les unes avec les autres, les unes contre les autres aussi, peut-être que ce troisième lieu existerait encore de nouveau. Et ce serait notre tâche à nous de le faire. Alors, peut-être que c'est possible d'avoir encore une communauté, fût-elle inavouable. Merci.
Merci, Gilles Dupuis. Alors, ce sera maintenant la période de questions et de débats. Si vous me permettez juste un petit commentaire, ce qui m'a frappé, c'est que nos trois revues ici se voient, se perçoivent comme en marge de l'idéologie dominante. Et je ne sais pas si cette marge-là se rejoint quelque part. Mais je ne veux pas insister, je laisse la parole à vous tous et chacun.
Bonjour, merci. Mon nom, c'est Jean-Pierre Couture des Cahiers de l'Idiotie. Et j'enseigne également la pensée politique à l'Université d'Ottawa. Et j'ai une question double, commentaire à M. Caldwell et à messieurs de Hégard. Je crois que le conservatisme doit être enseigné, doit être lu. Burke, notamment, je fais partie des grands auteurs de la pensée politique moderne, parce que le conservatisme, pour le dire comme ça, a été la première grande fronde organisée contre la civilisation moderne. Et je crois que pour une période très courte, très chaude, 1790-1830 au pire, c'était une période là, de gloire, peut-être de la réaction conservatrice au phénomène et aux révolutions modernes. Donc, ça doit être lu et enseigné, débattu. Cependant, le constat que je fais ce matin, je connais un peu votre revue pour l'avoir feuilletée. J'ai entendu votre commentaire ce matin. Je crois que je me réserverai le commentaire suivant, très court, que le conservatisme sera adulte lorsqu'il nous proposera une réflexion sur ses propres échecs. C'est-à-dire qu'il est très commode de désigner l'autre, le moderne, autrefois, et aujourd'hui le révolutionnaire tranquille, comme étant son fossoyeur, alors qu'il y aurait toute une autre, je pense, part de diagnostic à faire sur l'échec du conservatisme. Donc, sa maladie infantile, je crois, c'est de désigner toujours l'autre comme son fossoyeur. Je pense que si on fait le diagnostic suivant, savoir que les prêtres et les sœurs, l'Église, Monseigneur Parent en tête, sont les créateurs du ministère de l'Éducation, qui sont aujourd'hui votre bête noire, si on veut. Et donc, cela nous montre que les révolutionnaires tranquilles, c'est pas une génération spontanée et que ça n'a pas eu lieu dans un vacuum historique. Ça vient des années 50. Et donc, c'est pas né dans un champ de patates de l'Estrie. Pas du tout. Donc, il n'y a pas de génération spontanée. Donc, c'est un vice un peu de l'histoire que de présenter la chose ainsi. Donc, moi, je serais très intéressé de vous entendre, vous, ce matin ou ailleurs, sur les causes endogènes de l'échec de votre langage politique, si on veut, plutôt que d'insister toujours sur l'autre qui vous empêche un peu d'exister, si on veut. Et à ce titre, mon deuxième commentaire-question, c'est que vous vous présentez dans la figure de la résistance, un peu dilettante. Nous sommes indépendants, nous sommes peut-être aussi seuls. Je peux lire entre les lignes. Pourtant, lorsque vous vous référiez à George Grant tantôt, j'ai tout de suite pensé aux travaux de Marc Chevrier, de Yves Couture, de la revue Argument, qui, je crois, sont des alliés, je pense que dans votre discours politique, je pense que monsieur le jeune homme Carl Bergeron fait la navette entre Argument et votre revue, de même que Daniel Tanguay qui a proposé un dossier sur le néoconservatisme, une défense de ce langage politique aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pourriez établir la nature de votre collaboration peut-être avec Argument, qui est une revue qui est dominante, je crois, dans le paysage québécois, etc.?
Bon. Alors, c'est une question à plusieurs volets. Je prétends pas pouvoir répondre à tout ça, mais je vais m'adresser à certaines-unes de ces questions-là. Et d'abord, je dois souligner que je prétends pas représenter la revue. Je suis quand même sur le conseil de rédaction. Alors, cette question, est-ce qu'on propose des solutions? C'est sûr que le Québec a connu une modernisation tardive et accélérée. C'est pas unique. La même chose s'est passée après en Espagne, en Irlande, en Italie, en Portugal. C'est une expérience qui est pas unique. C'est une expérience qui amène à peu près les mêmes conséquences dans tous les pays de culture catholique où il y a une hégémonie de l'Église catholique. Et cette modernisation, et on subit toutes ces conséquences-là. On est conscient de ça. Quand je dis on est conscient, moi je suis très conscient de ça, mais on est aussi très conscient qu'on est en train de perdre beaucoup. Je vous donne un exemple. J'entendais une chanteuse québécoise qui faisait une interview au Québec et on lui posait la question, la différence entre Montréal et Toronto. Elle dit à Montréal, on peut se promener et on peut faire eye contact, c'est-à-dire on peut avoir un égard qui se complète avec des gens. On peut rencontrer des gens dans les rues, heureux, sourire, leur demander quelque chose et il y a un contact vraiment humain qui se fait. C'est presque impossible de faire ça à Toronto parce que dans Toronto, c'est une société totalement modernisée. Tout ça pour dire que Québec est hérité de quelque chose qui est encore là et qui doivent être conservés si c'est possible. C'est une société qui est capable de toutes sortes de choses où on peut se mobiliser, on peut discuter, où il y a une civilité absolument énorme. Alors, il faut conserver cet essentiel, mais si on se laisse aller, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit, j'ai essayé de m'aligner sur votre question, sur une modernisation complète, étant donné qu'on a quand même un héritage qui est important, qui a ses côtés positifs, négatifs, cette pensée unique, c'est un héritage de l'avant-civilisation, avant la Révolution tranquille, qui nous joue des tours maintenant, cette pensée unique. Alors, il s'agit de... et aussi, je voudrais admettre, comme vous avez dit, qu'il y a toute une génération de jeunes historiens, Éric Bédard et d'autres, et vous en avez parlé d'autres, qui sont en train de se questionner, de réfléchir sur comment est-ce qu'on conserve l'essentiel de cet héritage envers et malgré une modernisation extrême qui nous amène sur presque une liquidation de notre culture. Alors, je réponds, j'ai essayé de répondre à votre question. C'est sûr, on n'a pas les seuls. Il y a des alliés, des gens qui pensent comme nous, mais la plupart hésitent de publier dans EGARE. Parce qu'EGARE, c'est vraiment réactionnaire. Il est vu comme réactionnaire. Aucun intellectuel qui se respecte au Québec se publierait dans EGARE. Alors, il y a un problème là, il y a une sorte d'emprise d'une pensée quand même respectable, que j'appellerais une pensée unique, pourquoi on se tait être tellement réactionnaire? Bon, il y a une variété d'opinions parmi les membres, mais il y a quand même une communauté de pensées qu'on partage, que je pense pas que tous ces intellectuels sont prêts à partager publiquement. Par exemple, nous partageons la conviction, je répète ce que j'ai dit, que l'héritage gréco-judéo-chrétien est le seul vraiment porteur de ça dans le monde moderne, c'est l'Église catholique. Toutes les autres ont décidé de se dé-européaniser. Il faut pas être eurocentrique de nos jours. Nous sommes eurocentriques, il n'y a pas de doute. Et je ne sais pas si tous ces intellectuels seraient prêts à déclarer « je suis eurocentrique », qui amène une réaction quand je parle avec mon petit-fils qui est quand même en secondaire 5, qui sait pas qui est Churchill, qui sait pas qui est Stalin, qui sait pas qui est Roosevelt, qui sait pas qui est King, qui sait pas quand la première, deuxième guerre s'est déclenchée, a fini. Je suis assourdi. Je suis, ça m'a pris une semaine pour me reprendre de ça. Je suis accablé. Et je comprends que ces professeurs ont voulu qu'ils ne soient pas eurocentriques, alors il ne fallait pas qu'on porte d'attention sur ça. Alors, ça, c'est ma réponse. C'est un peu hâtif, c'est un peu juste. Je sais qu'il y en a des gens, et le dernier que vous avez mentionné, qui est Tremblay. Tanguay, on en trouve, nous, qu'il y en a parmi ceux-là qui sont un peu libertariens. Nous ne sommes pas libertariens. On trouve qu'il y en a parmi eux qui sont un peu nihilistes. Nous ne sommes pas nihilistes. Nous croyons à un bien commun et notre devoir envers cet bien commun. Et on trouve qu'il y en a qui sont anarchistes aussi dans ça. Nous sommes ni libertariens, ni anarchistes. Et c'était quoi le troisième? Nihiliste. Alors, c'est notre position, mais on est heureux de voir apparaître parmi ces jeunes Bac-Côté, par exemple, Éric Bédard et ceux que vous avez mentionnés. Et c'est un signe de maturité de la société québécoise dans le sens que ces courantes peuvent commencer à s'émerger.
J'ai bien aimé l'exemple de la maison de Pauline Julien, de Gérald Godin d'ailleurs, qui était avec le poème de Michel Bugeaud. Et à l'époque, le maire Drapeau avait voulu effacer, si on se souvient bien, le fameux poème. Il y avait eu tout un débat très important. Alors peut-être que c'est dans la société actuelle, on efface le débat et on veut agir un peu, on agit généralement un peu comme le maire Drapeau, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas voir ces choses-là. Et je me dis par contre, d'autre part, et peut-être la question se pose aux trois revues, je me souviens un peu parce que on revoit quelquefois des archives de Cité Libre, qui était une revue quand même à l'époque importante, hein, et les gens étaient présents à la télévision, dans les médias. Vous avez parlé de cirque médiatique. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui pour vous, là, de toutes les options? Je vois avec M. Cardwell que je serais exclu de presque toutes les options, mais peu importe, d'aller dans le cirque médiatique et de porter vos revues et vos idées, ou est-ce que c'est devenu impossible?
Si moi je peux répondre à ça, je prends un grand moment de réflexion dans la société québécoise contemporaine, le rapport Bouchard-Tremblay. Taylor, cette commission-là est construite et mise en place un comité d'experts de 14 personnes, dont 13 étaient des académiques et le 14e était un fonctionnaire. Il n'y a eu aucune ouverture à ces courants d'opinion que vous mentionnez. Il n'y avait aucun moment où on pouvait se retirer un peu de nos convictions partagées, supposément, et dire « est-ce que... on doit réfléchir sur ce point-là. » Ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire, je vous soumets qu'on est prise dans une sorte d'orthodoxie qui empêche ce genre d'échange et discours. J'espère que avec différentes revues de gauche, de droite et de jeunes intellectuels, on va pouvoir avoir ces échanges. Par exemple, autour des questions, nos écoles publiques, c'est un désastre. C'est pas unique au Québec, mais c'est un désastre et on se relèvera pas de ça si on fasse pas quelque chose. Des gens qui sont prêts à le dire en privé, mais il n'y a pas de discussion véritable sur ça.
Oui, bien, très brièvement, je pense que ce que je voulais insister sur le fait que, oui, ça existait, comme vous dites, en plus, même dans les médias. Mais maintenant, je pense que si on ne crée pas nous-mêmes ce lieu-là, non, je ne pense pas qu'il y ait d'espace maintenant pour ça. Combien de fois est-ce qu'une revue, là, je ne parle même pas là, des livres at large, là, mais une revue est recensée dans un des grands périodiques, un des grands journaux quotidiens? Quand est-ce qu'on parle de. Bon, nous, on est chanceux, on est un peu la tête de Turc de Louis Cornelier dans Le Devoir. Donc, à l'occasion, on a deux phrases sur Spirale grâce à ce contentieux, et tant mieux. Mais sinon, quand est-ce qu'on va faire une recension d'un numéro de revue? Quand est-ce qu'on va parler d'une revue à la télé, dans les petites capsules culturelles du téléjournal? Quand est-ce qu'on va être invité? Tout le monde en parle. On invite seulement les écrivains dont on espère qu'ils fassent scandale, mais sinon, ça l'intéresse pas. Et je pense pas qu'il faut même penser qu'on va pouvoir revenir à ça. Par contre, la perche que je voudrais tendre, c'est pourquoi est-ce que les revues ne font pas consister médiatiquement ce lieu-là? On a tenté de le faire avec Radio Spirale, mais là, c'est une revue. Mais au lieu de le penser uniquement que chaque revue pourrait avoir son site Internet ou chaque revue pourrait avoir son lieu, pourquoi est-ce que les revues qui sont intéressées, je ne voudrais pas l'imposer non plus, hein, les revues qui sont intéressées à le faire ne se mettent pas en synergie pour créer ce lieu-là, parallèle, concurrentiel à la présence médiatique circassienne, comme diraient certains. Et là, moi, je serais partant, hein.
Oui, peut-être un mot. Je ne sais pas exactement quoi faire avec le diagnostic qui consiste à dire qu'il n'y a plus de débat public. C'est à la fois vrai, c'est-à-dire à la fois effectivement une volonté d'effacer les débats publics. Je ne sais pas, pensons simplement à le fait qu'on n'a pas du tout invité Québec solidaire au débat des chefs, par exemple. C'est une façon quand même de quand même tenir le débat politique à l'intérieur d'un cadre bien défini. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais en ce qui concerne le diagnostic sur la pensée, unique, à la limite, au départ, je pourrais presque être d'accord avec M. Clardwell, mais je n'identifie pas du tout la chose de la même façon. C'est là que commence la politique, en fait. La pensée unique, est essentiellement au fait que les médias sont détenus par des grosses compagnies qui ont pour but de faire de l'argent et qui, pour ça, vont marchandiser donc l'information, qui n'a pas du tout pour but de nous informer, mais qui a pour but de faire vendre des journaux, des médias, et qui va se faire sur la base d'un critère qui est la cote d'écoute ou le nombre de ventes qui va déterminer ensuite le prix des publicités, etc. Donc là, et je ne parle pas du tout des conflits d'intérêts qu'il y a dans ce cadre-là. Donc là, il y a manifestement quelque chose qui est effectivement une pensée unique. Et puis ensuite, s'inviter ou pas dans le cirque médiatique, ben oui, bien sûr, on le fait. On envoie nos numéros à tous les journalistes du Devoir, à tous les journalistes. On essaie de recréer cette scène-là, mais cette scène de discussion, on voudrait qu'elle se fasse en parallèle. On voudrait qu'elle se fasse en parallèle, notamment parce que les revue existe, c'est déjà la création d'une scène. Elle se fait cette scène en parallèle par toutes sortes d'initiatives, mais on n'est pas du tout contre, quoi. Voilà.
Moi, j'aime bien aussi cette idée de scène commune que les revues devraient initier. L'idée de Radio Spirale, elle est bien, peut-être un peu trop spécifique. Un modèle que moi, j'aime bien, c'est Courrier International. Parce qu'effectivement, la scène publique actuelle, c'est pas la place publique du village ou je ne sais pas où à Montréal, surtout dans un pays chaud. C'est les médias. Et le modèle de Courrier International est intéressant parce que, justement, il rend disponible des textes intelligents qui autrement étaient inaccessibles parce que dans d'autres langues. Et il y a peut-être pour nous aussi quelque chose qui pourrait être inventé dans cet ordre d'idées. Un lieu commun qui pourrait peut-être prétendre rejoindre un peu plus de gens, qui serait fait à partir de contributions, des meilleurs articles, des trucs qui s'entrecroisent autour de thématiques de chacune de nos revues. Alors ça, ce serait pour moi... je pense qu'il faut réfléchir en ce sens-là. Il faut arrêter de juste envoyer nos revues à des journalistes qui n'en veulent pas. Il ne faut surtout pas rêver que tout le monde en parle. Tant qu'en tout cas, tu n'auras pas réussi à marquer une présence un peu plus forte qui interpelle véritablement la scène publique comme telle.
J'ai un tout petit malaise parce que je pense qu'on, Monsieur Caldwell, on vous a posé tout à l'heure une question extrêmement importante, qui est de prendre acte d'un constat d'un échec du langage politique de la pensée conservatrice depuis, si je me réfère à l'échelle de temps, pratiquement 2 siècles. Or, moi, je ne connais pas votre vue, mais je suis allé lire votre déclaration fondamentale, puisque je trouve là-dedans, c'est une série de croyances et de solutions à des problèmes que vous identifiez. Puis, je pense que sur l'identification des problèmes, on n'est pas si loin, effectivement. Mais vous dites quand même que vous croyez à un ordre transcendant appelé à régir la société ainsi que la conscience. Vous tenez ce langage-là, alors que ce langage-là, vous ne tirez pas le constat d'échec, vous ne tirez pas les leçons de cet échec-là. Et j'aimerais que vous répondiez à cette question, parce que il me semble que c'est important pour la position, votre propre positionnement, mais c'est aussi important pour savoir, nous, qui vous êtes exactement.
Bon, j'apprécie beaucoup cette question et je suis pleinement conscient que je n'ai pas répondu de façon adéquate à la question qui était posée ici au sujet d'autres personnes qui sont en train de faire renaître une pensée conservatrice. Moi, je suis peut-être plus modeste dans le sens que je trouve que... il y a toujours des limites, il y a toujours des excès, il y a toujours des acquis, il y a toujours des choses bien faites. Mais il y a toujours des coûts qui vont avec ça. C'est sûr, le Québec et le Canada français, sa survie jusqu'à 1960 était un miracle qui est la conséquence de beaucoup de choses, une situation géopolitique particulière, le fait d'être recoupé d'Europe pendant un certain temps, la création d'un certain esprit égalitaire parce qu'il n'y avait pas de grande bourgeoisie, aristocratie. C'était aussi la conséquence de l'Église qui a créé des institutions, notamment les paroisses qui étaient dans la société civile. Très important, la paroisse était un des piliers de la société québécoise. Après la famille, il y avait les collèges classiques. Toutes ces choses-là étaient des acquis avec des coûts. C'est sûr, le coût en liberté personnelle était énorme et vous pouvez dire que c'était un échec. C'est sûr, c'était un coût énorme, mais nous sommes en train, et c'est ma façon de répondre, de passer proche à vivre un coût qui sera encore plus grand. Ça serait la liquidation complète de la société canadienne-française ou québécoise, si vous voulez. J'attends qu'on m'enseigne ce qu'est le Québec-étude à part la langue. Mais on est en train de risquer le tout maintenant dans une modernisation excessive. Est-ce que je prends assez acte des échecs de le passé, de la pensée conservatrice? Bon, peut-être je ne prends pas assez note de ça. Tout ce que je constate, par exemple, moi, j'ai rencontré les Québécois pour la première fois à Varsovie en 1962 à Varsovie. Je trouve là, c'était à l'intérieur d'un séminaire d'entrée d'universitaire, on était 40 Canadiens, dont à peu près une douzaine du Québec. Il y avait une envergure culturelle, une responsabilité sociale envers leur société, une conscience politique qui n'existe pas parmi nous, les Canadiens anglais. C'était un acquis extraordinaire. Ce sont les mêmes gens qui ont fait la Révolution tranquille. Et ça vient de quelque part. Ça, c'est une conséquence de quelque chose et il ne faut pas le tout perdre. Et quand je vois ce qui arrive maintenant, et je fais une caricature, quand la caisse dépôt ou tous nos épargnes, que ce soit la société d'assurance automobile, que ce soit la commission de construction, sont tous là, va annoncer une perte de une vingtaine de milliards de dollars. On va tous être obligés de payer pour ça et ça va compromettre notre capacité de renouveler nos écoles, de renouveler des universités. Alors ça, c'est ma réponse en bref. C'est certain qu'il y a eu des échecs dans le passé de cette pensée-là. Il y a eu des acquis et la véritable existence du Québec aujourd'hui. Le Québec existe aujourd'hui. La Louisiane n'existe plus. C'est un acquis de ça. Et il faut éviter de faire des erreurs qui vont faire en sorte que tout est perdu.
Je
C'est une vision assez pessimiste de la vie, mais c'est pour ça que...
Je peux réagir quand même à ce que vous dites, parce que vous reprochez à la Révolution tranquille d'avoir mis sur place une pensée monolithique, laïque.
Non, la pensée unique vient de la pensée, je l'avais admis.
Dans la présentation de votre vue, puis après, vous êtes pris à l'état tantôt, disant qu'avec le programme de culture religieuse et tout, ce côté monolithique, mais en fait,
parce
il me semble...
Parce que c'est obligatoire.
Obligatoire. Mais il me semble que là, quand même si c'est obligatoire, il y a au contraire volonté de prendre acte de que le fait que le Québec est devenu une société pluraliste, au contraire, et que vous voulez revenir à une conception monolithique catholique d'avant la Révolution tranquille. Et c'est, dans ce sens-là, c'est pas le fait que ce soit réactionnaire en tant que tel, c'est que vous avez une pensée bien plus monolithique que ce que vous dénoncez. Et c'est ça qui me gêne.
Prendre la question de ma position et sûrement la position de la revue envers cette cour-là, éthique et culture religieuse. Notre position est basée sur le fait que on usurpe le pouvoir, le droit des parents, on enlève le libre choix, on prétend que ce neutre n'est rien qui est neutre. C'est une intrusion sur la liberté de conscience, c'est une intrusion sur le droit des parents, et ce n'est pas approprié. Même la société de langue, le mouvement laïque prend cette position, c'est pas approprié au niveau primaire, mais surtout dans mon cas, c'est le caractère obligatoire imposé par l'État, et ça, c'est un problème énorme.
Il y a une dernière intervention, Micheline. Après ça, nous devrons
Je vais nous ramener sur un terrain un peu différent pour faire remarquer que, bien sûr, tout le monde a l'air de souhaiter la création d'un... vous avez parlé d'une scène qui pourrait être commune, d'un espace public, dirais-je. En même temps, je suis frappée par je dirais pas les exclusions, mais en tout cas, la façon dont, à l'intérieur même des discours qui ont été tenus, il y a une configuration très précise de ces espaces-là. Par exemple, j'ai été un peu étonnée de voir que, dans l'esprit de Martin Jalbert, ce qui concerne le politique et ce qui concerne le culturel, ça n'avait pas à cohabiter dans un espace public. J'ai été évidemment sensible à ce qui a été dit par mon collègue lorsqu'il évoque le fait que Spirale est un lieu accueillant, mais je vais quand même jouer la mouche du coche et puis rappeler que à Spirale, on publie des comptes rendus d'un certain nombre d'ouvrages, d'un certain nombre de manifestations, et qu'il y a des choses qui en sont exclues, et que donc il y a une configuration de l'espace public et de la culture qui est extrêmement précise et qui donne une image qui correspond aux intérêts ou aux désirs des gens qui font partie du comité. De la même façon, me semble-t-il, quand vous décrivez M. Caldwell comme une revue qui est isolée, presque les derniers Gaulois, je trouve que vous ne prenez pas suffisamment en compte le fait que, effectivement, à l'extérieur, dans les universités, mais aussi dans d'autres périodiques, il y a des gens qui, sur un certain nombre des choses que vous proposez, vont être prêts à être en accord avec vous. Même Martin Jalbert admettait que, pour certaines choses, il pouvait être d'accord avec vous. J'ai le sentiment que là, il y a un enjeu important qui est en cause, qui est cette difficulté où on se trouve à l'intérieur d'un univers où on s'est engagé les uns les autres dans une foule de discours spécialisés. Cette difficulté qui est la nôtre, donc, d'accepter de coexister, et je pense pas nécessairement à une coexistence tranquille, de coexister dans un espace public qui rassemblerait l'ensemble des discours. Tout à l'heure, vous aviez raison, monsieur, de faire remarquer que jusque dans les années 60, les grands médias exerçaient cette fonction-là. Il y avait effectivement dans les médias la possibilité de faire coexister toutes sortes de paroles, et il est tout à fait évident à mes yeux que si Pierre-Éliott Trudeau n'avait pas profité de ces médias, qui étaient des médias publics, si sa seule parole, ça avait été celle qu'on trouvait dans Cité Libre, il ne se serait rien passé. Il ne serait pas devenu le premier ministre qu'on connaît, mais il y a plein d'autres choses qui ne se seraient pas produites. Donc, je crois que là, il y a une difficulté qu'il faudrait examiner peut-être un peu autrement. Il faudrait se demander à quoi ça peut ressembler aujourd'hui un espace public. Manifestement, l'espace public, il n'est plus créé par les journaux, il n'est plus créé par ces voies-là. Comment est-ce qu'il est créé? Est-ce qu'Internet est un nouveau lieu où peut se déployer un espace public un peu régénéré ou rendu à la fois plus dynamique et donc plus conflictuel, mais aussi plus accueillant? Je n'en sais rien, mais il me semble que s'il n'y a pas de réflexion qui va en ce sens-là, on n'ira pas très loin.
Juste pour dire, Michel, non, il faut répondre aussi. c'est pas juste une question de... Il faut quand même répondre. Alors, Michel, oui, je suis d'accord avec toi, mais comme je disais, chaque revue aura sa façon à elle d'occuper cet espace public. Moi, je vais aller un pas au-delà. C'est normal que Spiral a sa façon de élire ses propres objets culturels et selon les collaborateurs, c'est la même chose pour n'importe quelle revue. Mais pour moi, c'est pas suffisant de juste coexister dans cet espace. Il faut le faire consister, cet espace. Encore plus, c'est une chose de plus. Pour ça, je dis qu'il faut que certaines revues, celles qui sont intéressées, hein, c'est pas un programme obligatoire, justement, les revues qui seraient intéressées à faire consister cet espace, il faudrait trouver la meilleure façon, le meilleur médium. Spiral le fait à sa façon, mais pour elle-même, mais ça pourrait être élargi et faire consister de nouveau cet espace-là, qui ne sera pas évidemment l'espace que c'était dans les médias auparavant, ça, personne n'a pas d'illusion là-dessus, mais qui peut être effectivement un autre type de réseau où les revues qui sont intéressées à débattre, même entre elles, ça ne veut pas dire aussi de polémiquer à tout prix, là, mais je veux dire même débattre entre elles, puissent le faire et réoccuper cet espace laissé vacant. Parce que l'espace a été laissé vacant, je pense, c'est surtout ça qu'il faut dire.
Ben, si vous permettez, M. Caldwell, mon voisin de droite, peut parler, je vais lui laisser la parole.
Oui. Alors, non, je ne crois pas avoir dit que les enjeux culturels et le culturel et le politique ne devaient pas se cohabiter ou se rencontrer. J'ai seulement dit que les problèmes qui se posent à une revue militante et de gauche et les problèmes qui se posent à des revues culturelles ne sont pas toujours exactement les mêmes. Donc, et aussi que par ailleurs, l'idée de créer une scène des revues, pour nous, n'est pas l'ultime enjeu. C'est la scène politique qui nous intéresse. Est-ce que la façon dont j'ai parlé de cette scène politique-là, c'est la configurer d'une façon très précise? Peut-être bien, mais c'est quand même la scène de la démocratie, la scène du pluralisme, la scène donc des antagonismes. Et puis ensuite, pour ce qui est des liens qu'on peut faire entre des revues culturelles ou milieux culturels et une revue militante, sociale, politique comme à Babar, les efforts sont faits. Dans le passé, il y en a qui sont effectivement faits pour faire se rencontrer des milieux et faire se rencontrer des gens qui, peut-être, ne se rencontreraient pas.
Brièvement, monsieur. Oui, je suis d'accord que l'enjeu, le défi est de taille, de faire en sorte qu'on ait un espace public qu'on a eu au Québec. Dans les années 60, 70, 80, 90, il y a eu un espace public que moi, je trouve extraordinaire. On entendait des courants d'opinion, on entendait des gens qui s'agissaient de s'intéresser aux choses publiques et on était entendus au Québec pendant ces années-là. Maintenant, c'est beaucoup moins sûr. Il y a un problème entre les universités, l'État et tout le monde en parle. Il n'y a pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est peut-être un début. Je trouve ça stimulant. Mais je suis d'accord à un espace public critique où on échange des idées à l'intérieur d'une civilité qui est le nôtre, qui est un des grands héritages de notre société canadien-française ou québécoise, comme on veut, je trouve que c'est un défi de taille. J'ai pas de réponse à ça. Et moi, par exemple, j'écris en espérant que 20 ans plus tard, quelqu'un s'intéresserait à ça. Ce que j'avais écrit sur la société civile il y a 20 ans, il y a des gens qui s'intéressent à ça maintenant, mais c'est 20 ans plus tard.
Bon, je vais être très, très brève.
Votre réaction, et aussi monsieur, donc deux personnes.
Oui, je vais y aller brièvement. Je voudrais juste vous proposer de faire attention quand vous dites qu'il n'existe pas cet espace public-là. Parce que, je prends l'exemple, vous donniez l'exemple de l'ATSA que j'aime beaucoup et dont on entend beaucoup parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont été diffusés par les cirques médiatiques dont vous parlez. Ils ont passé à tout le monde en parle. Il y a d'autres artistes, il y a d'autres gens qui prennent la parole publiquement de façon peut-être moins médiatisés, mais qui ont autant d'influence. Et il y a des revues aussi qui le font. Quelqu'un hier mentionnait désarroi de voir que peut-être qu'on ne se lisait pas entre nous. Il y a des revues qui, effectivement, donnent ce territoire-là aux praticiens, aux théoriciens, à la relève, à des psychologues à travers des revues d'art, à des psychanalystes. Il y a vraiment ces lieux d'échange-là. Ils ne sont peut-être pas parfaits, mais ils existent. La même chose pour l'échange entre la culture et la gauche. Peut-être que la culture ne sert pas beaucoup à la gauche, j'en suis vraiment désolée. Mais moi, personnellement, à Babord me sert pour mes éditoriaux. Je crois que les pensées que vous menez sont aussi les pensées que plusieurs revues mènent, plusieurs revues culturelles mènent, et on s'en inspire beaucoup. Donc ça, c'en est pour moi des échanges.
Bonjour, je suis Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de la revue Relations dont parlait en début Martin, qui a malheureusement été oublié, qui est un symptôme finalement peut-être, parce qu'on est quand même une revue qui date de 1941. Comment peut-on oublier Relations? Mais c'est un parenthèse, surtout qu'on avait... Bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais je reviens sur l'importance de la pluralité et de la défense de la pluralité. Et je questionne précisément la posture de Degas dans la mesure où il s'attaque à la pensée unique avec une certaine pensée unique aussi. Alors c'est ça comme je rejoins un peu et ça c'est problématique. Attaquer une pensée unique, c'est justement décloisonner la pensée et en faire émerger tout le sens possible à travers la pluralité des voix. Et je pense que Relation, dans sa manière de faire précisément, essaie de parce que premièrement elle est une revue de gauche, mais aussi catholique, qui est étonnant d'ailleurs, hein, parce que justement, à entendre M. Calouel, l'Église catholique serait conservatrice, alors que nous, précisément, on est dans cette voie de questionnement et d'émergence des voix. Et l'Église en est une voix, les chrétiens sont une voix, mais elle doit participer au débat public comme étant justement engagée dans la justice et dans un nouveau rapport au monde. Et précisément, alors justement, quand on parlait du décloisonnement aussi, le décloisonnement est entre la pensée, l'analyse et le culturel aussi. Et c'est ça qu'on essaye aussi en relation, c'est d'allier précisément les artistes, hein, les voix littéraires à une dénonciation de cette pensée unique, de ce rapport marchand au monde, de cette financiarisation qui nous traverse le corps et l'esprit. Et ça, les voix croyantes ou non croyantes, artistes, intellectuels, militants, doivent se mélanger aussi et se croiser et justement constituer précisément la société civile. Ce qui me préoccupe dans la vision de la société civile de M. Caldwell, encore une fois, c'est qu'on a l'impression que cette société civile, c'est comme une église, hein, c'est comme une communauté où tout le monde est dans un consensus, tout le monde doit avoir cette civilité finalement qui est une obéissance à un certain dogme et à laquelle on doit se plier. Précisément, la société civile est un lieu de débat, de contradiction, de polémique. Et c'est là que doit être émergé précisément. Et j'espère, précisément, dans cette volonté de s'unir comme revue, hein, que ça débouche aussi, parce qu'il faut effectivement émerger. Hein, et ça, c'est difficile d'émerger dans l'espace médiatique qui est omniprésent, hein, et qui nous confine à nos petites revues et à nos petits travaux. Et en plus, avec peu de moyens. Et ça, c'est important justement d'essayer de déployer des réseaux qui permettent de sortir de cet isolement non volontaire. Et Sodec peut-être aussi préfère l'effort d'intégrer, hein, dans son sein des revues d'analyse aussi un peu plus, hein, ou essayer au moins de militer pour que les revues d'analyse soient aussi reconnues comme des revues qui méritent de subventions. Hein, c'est ça qui est le drame actuellement. On a vu avec Recto Verso comment ils ont périclité, comment possible la presse était aussi avalée par la vague. Et je pense qu'on doit, comme revue, essayer d'appuyer des revendications pour que justement ces revues soient reconnues comme étant d'un apport essentiel pour la vie de la société.
Une dernière réaction?
Oui, je trouve ça stimulant, intéressant, encourageant.
Mais il faut admettre que Relation, il y a 10 ans, 15 ans, était pleine dans la vague orthodoxe, multiculturiste, interculturiste, gauchissant. Relation, c'est la seule revue qui a refusé de me publier dans toute mon histoire de pensée d'intellectuel. Je dis pas que c'est un problème d'avoir une ligne comme Relation a eu une ligne. Nous, on a une ligne, c'est sûr, idéologique. Je dis pas que c'est un problème, mais je trouve cette ouverture fascinante. Et quant à l'appui de l'État, j'espère que nous, on mériterons jamais l'appui de l'État.
Alors, on va s'en tenir à ça et poursuivre nos discussions peut-être autour d'un café.